Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, c'est avec vous Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Hier, à l'heure où débutait RTL Soir, une femme a vécu l'enfer. Elle s'appelait Shaïnaise, elle avait 31 ans. Shaïnaise, c'était la maman de 3 enfants. Ça fait longtemps qu'elle se sentait menacée par son ex-compagnon violent, elle le disait, elle avait même porté plainte contre lui et il venait de sortir de prison. Hier donc, vers 18h, il lui a tiré dessus avec son fusil, puis il l'a aspergée d'essence et brûlée vive. Ça s'est passé dans une rue de Mérignac, en France, en 2021 donc. On peut dire et répéter une fois encore l'indignation, la colère, la tristesse, l'horreur. Mais la seule vraie question que l'on doit se poser ce soir en pensant à Shaïnaise, c'est jusqu'à quand ? Audrey Anouchot, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce mercredi 5 mai.
Et on partira à Mérignac dès le début de ce journal où un rassemblement spontané a lieu en ce moment en mémoire de Shaïnaise. La vaccination anti-Covid ouverte à tous le 15 juin. Beaucoup de questions d'organisation se posent en pleine vacances d'été. Et puis quand la politique est une affaire de famille, Claude Chirac est candidate au départemental en Corrèze.
Les invités d'RTL Soir, 18h15, Yannick Jadot, l'écologiste qui se verrait bien à l'Elysée. 18h35, Jim Bauer, artiste remarquable et remarqué dans The Voice, grâce notamment à son incroyable reprise de Tata Yo-Yo. Il y a Tata Peggy qui est avec nous également. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, ce sera bien arrosé.
Et oui, ça va concerner les trois quarts du pays. Alors un ciel bien chargé, beaucoup de pluie, parfois soutenue. D'abord sur une large partie nord-ouest, puis les pluies vont se décaler sur le sud et la façade est avec beaucoup de vent. Et le nord-ouest retrouvera un ciel instable entre nuages, éclaircies, averses et orages. Seules les régions entre les Pyrénées, les Alpes du Sud et la Corse seront épargnées, avec un beau soleil le matin, plus nuageux en journée. Tout ça sous des températures qui seront comprises entre 9 et 17 degrés au nord, jusqu'à 23 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Une femme brûlée vive par son mari. Histoire sordide à Mérignac en Gironde. Elle a vécu le calvaire hier après-midi. Le tueur présumé, déjà connu des services de police, avait été condamné à de la prison pour violence conjugale. Il a été interpellé. Le récit de Denis Grandjou.
Oui, d'après les premiers éléments de l'enquête, le tireur présumé, Mounir B, était armé d'un fusil de calibre 12 et d'un pistolet à gaz. Il a d'abord mis le feu au pavillon, obligeant son ex-compagne à sortir dans la rue. Là, il la vise et tire avec son fusil, la blesse à la jambe. Elle est tombée au sol. Il s'est alors saisi d'un bidon d'essence dans une camionnette et il l'a aspergée avant de la brûler vive. Il s'est ensuite enfui à pied avant d'être rattrapé par les hommes de la BAC. Pour les habitants, ce drame était malheureusement prévisible.
Franchement, elle vivait l'enfer. C'est une femme qui a vraiment souffert.
Il était très violent, quoi. Ça l'a pété, mais c'était un mec très spécial. Il n'y avait que lui qui comptait, quoi. Il n'y avait que lui qui comptait.
Ouais, elle nous a dit plusieurs fois. Elle n'a pas arrêté de nous dire ça. Elle le savait qu'un jour, elle va mourir comme ça.
Il a essayé de l'étrangler, ici devant le carrefour. Il a essayé de l'étrangler. Elle est partie déposer plainte. Elle nous disait toujours, gardez mes enfants. Si je meurs, essayez de protéger mes enfants. On n'a pas pu la protéger.
Ce soir, tout le quartier est encore sous le choc. La mairie de Mérignac a mis en place une cellule d'assistance psychologique. Les habitants, eux, ont prévu de se retrouver pour se recueillir. Ils sont d'ailleurs en train de sortir de leur pavillon pour rendre hommage à Shaïnaise. Elle avait 31 ans et elle est morte brûlée vive.
Denis Grandjou à Mérignac pour RTL. L'association Nous Toutes compte ce soir 39 féminicides en France depuis le début de l'année 2021.
18h03, la situation sanitaire avec une date à retenir hein, dès le 15 juin. La vaccination sera cette fois ouverte à tous les Français.
Un calendrier qui se chevauche avec les vacances d'été et pose donc beaucoup de questions. Devra-t-on revenir de congé pour se faire vacciner dans sa région ? Sera-t-il possible de prendre rendez-vous sur son lieu de vacances ? Virginie Garin, le gouvernement y songe.
Oui, parce que ces questions concernent beaucoup de monde. Donc, dès le 15 juin, si tout va bien, 2/3 des adultes devraient avoir reçu au moins leur première dose. 30 millions de Français, mais il leur en faudra une deuxième, sauf ceux qui auront été vaccinés avec le Johnson. Et puis, à partir de cette date, donc de la mi-juin, la vaccination sera élargie à la totalité des adultes, c'est-à-dire 15 millions de personnes éligibles en plus, qui risquent de prendre leurs vacances à ce moment-là. Des doses de vaccins supplémentaires vont donc être acheminées vers les grandes zones touristiques. Le gouvernement a expliqué hier qu'il y réfléchit pour ne pas freiner la campagne vaccinale. L'idée est d'éviter que des personnes soient obligées de faire un aller-retour, quitter les plages ou la montagne pour revenir chez elles, se faire vacciner puis repartir. Les ARS et les mairies vont devoir réfléchir à des centres supplémentaires, y compris par exemple sur les plages, et trouver suffisamment de personnel pendant les vacances dans ces régions pour les faire fonctionner.
Merci à vous Virginie Garin pour ces explications. Les derniers chiffres de Santé publique France, les indicateurs sont en baisse ce soir. 5402 cas graves en réanimation. On compte encore 245 décès liés au Covid ces dernières 24 heures.
Le Covid et ses conséquences multiples et parfois inattendues. Ainsi, l'industrie auto fait face à une pénurie mondiale de puces électroniques et ça pose pas mal de problèmes.
Et d'après Stellantis, qui regroupe Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler, cette pénurie a empêché la production de 190 000 véhicules. Parmi les sites touchés, l'usine historique de Sochaux, où vous vous êtes rendu, Dimitri Ramelot.
Oui, et sans ces petits cristaux qui gèrent entre autres la radio, le GPS et le moteur, impossible de tenir la cadence de fabrication, comme l'explique Eric Pelletier, délégué syndical Force Ouvrière.
Ici, rien que sur la 308, c'est 400 voitures qui n'ont pas été fabriquées pendant 29 jours. Aujourd'hui, 12 000 voitures pas construites à cause de la pénurie. C'est 12 000 voitures qu'il faudra peut-être reconstruire demain.
Et la pénurie pourrait durer jusqu'en 2022, car le fabricant de composants situé à Taïwan les vend aujourd'hui très cher à d'autres secteurs, très demandeurs depuis le début de la pandémie, comme la téléphonie ou l'informatique. Problème en cascade et notamment sur l'emploi, où le site est passé de 2000 à 400 intérimaires. Nasser le constate chaque jour sur sa ligne de montage.
Il y a des fois on reçoit des pièces, il y a des fois on n'en reçoit pas. On regarde l'application ou le numéro vert et on sait si on travaille demain.
Message enregistré mercredi 5 mai. La tournée de cet après-midi est confirmée. Prochain point à 17h30.
Ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir une usine en France ou en Europe. On dépend des Chinois et finalement ça ne fonctionne pas.
Et le syndicat de rappeler qu'en 2010, 44% des semi-conducteurs étaient produits en Europe.
Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Les images sont intenables. L'association L214 épingle un abattoir de porc fournisseur d'Intermarché à Briec dans le Finistère. Sur cette vidéo, des animaux tués à la sortie du camion, électrocutés à la chaîne, certains à moitié paralysés. L'établissement a fermé ses portes de lui-même mais n'a pas été suspendu. Brigitte Gauthier, membre de L214, réclame une intervention concrète de l'État.
Aujourd'hui, on en est à 4 abattoirs montrés en moins d'un an avec des dysfonctionnements très graves. Donc on se tourne vers le ministre de l'Agriculture et on lui demande, comme l'avait fait Stéphane Le Foll en 2016, un audit généralisé sur les pratiques dans les abattoirs, que ça concerne les animaux dits de boucherie, les volailles et lapins. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a une vraie inertie. Ça commence à bouger au niveau local, au niveau municipal, où on a vraiment des engagements qui ont été pris. Mais au plus haut niveau de l'État, au niveau du Parlement, au niveau du ministère, c'est très très difficile aujourd'hui de faire bouger les choses.
Voilà, propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL. Petite pause et à suivre, comment célébrer, ou plutôt commémorer sans célébrer, le numéro d'équilibriste d'Emmanuel Macron 200 ans après la mort de Napoléon.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h08, la suite du journal avec vous, Aude Vernuccio. Il est mort il y a 200 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Napoléon Ier, commémoré cet après-midi à l'Institut de France et aux Invalides.
La figure incontournable de l'histoire de France, on lui doit le Code civil, le baccalauréat, la Chambre de commerce. Mais figure controversée pour avoir rétabli l'esclavage en 1802. Emmanuel Macron a présidé cette cérémonie. Le chef de l'État appelle les Français à regarder notre histoire en face.
Napoléon Bonaparte est une part de nous. Et c'est ce qui fait que nous sommes rassemblés ce jour. Non pas pour nous livrer à une célébration exaltée, mais pour une commémoration éclairée. Pour regarder notre histoire en face et en bloc. Napoléon, en 1802, a rétabli l'esclavage que la Convention de 1794 avait aboli. De l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur. Commémorer ce bicentenaire, c'est dire cela, simplement, sereinement, sans céder jamais à la tentation du procès anachronique qui consisterait à juger le passé avec les lois du présent.
Propos recueillis par William Galibert pour RTL. Elle l'annonce elle-même sur son compte Twitter. Marine Le Pen se porte candidate aux élections départementales dans son fief, le canton d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Ouais,
effectivement, les pointures se lancent, hein, Gérald Darmanin dans le Nord. Il y a une rumeur, Éric Dupond-Moretti peut-être aussi dans le Nord. On aura l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, on va en Corrèze, chez les Chirac. Et bien chez les Chirac, la politique, c'est définitivement une histoire de famille.
La fille de l'ancien président Claude Chirac est candidate aux élections départementales dans le fief familial de Brive, où sa mère Bernadette avait été suppléante. Elle sera donc sur la liste du président du conseil départemental sortant LR, Philippe de Maria.
Oui, au milieu de dizaines de candidats, celle de la deuxième circonscription de Brive s'avance timidement à l'appel de son nom.
Donc avec Claude Chirac, que ne me présente pas.
Alors, pas de discours, pas encore. Claude Chirac entre discrètement en politique sur un canton où l'on trouve par exemple l'école où officiait son arrière-grand-père. Elle a longuement mûri sa candidature.
C'est pas une petite décision, c'est un engagement très exigeant. Je me suis demandé si j'en étais capable, si je pourrais être à la hauteur. C'est une terre familiale. C'est l'histoire de la famille Chirac. Elle est vraiment ancrée en Corrèze. Et je porte ce nom avec beaucoup de fierté, évidemment. Mais pour autant, je ne suis ni Jacques ni Bernadette. Voilà, je ferai le mieux possible avec tout mon cœur, beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Vous pourrez dire à la fin si j'ai été à la hauteur de la situation ou pas.
Et Claude Chirac assure avoir eu la bénédiction de Bernadette pour se présenter sur sa circonscription corrézienne.
Le reportage RTL en Corrèze de Philippe de Maria. L'actualité à l'étranger, en bref, en Israël, le président Rivlin demande au chef de l'opposition, Yair Lapid, de former un gouvernement. Cela semble signer la fin de Benjamin Netanyahou, le premier ministre sortant.
Prudence, il est plusieurs fins, il est revenu à plusieurs reprises, on va suivre ça de près. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, confirme lui l'enlèvement d'un journaliste français au Mali.
Olivier Dubois, collaborateur de plusieurs médias à Gao, parle lui-même de son kidnapping. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il dit avoir été enlevé par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Arnaud Froger, du bureau Afrique de Reporters sans frontières, il le connaissait.
On sait que c'est un journaliste qui connaît extrêmement bien le Mali. Il travaille depuis plusieurs années, il a un réseau qui est extrêmement important. Il est décrit par tous ses confrères et les médias qui l'emploient comme un journaliste sérieux et très fin connaisseur de ce qui se passe sur place. Il avait décidé de se rendre donc dans le nord-est du pays, à Gao, le 8 avril. Il est parti de son hôtel pour un rendez-vous et il n'en est jamais revenu. La diffusion de cette vidéo, il semble confirmer malheureusement ce qu'on craignait depuis plusieurs semaines maintenant.
Des propos recueillis par Brice Dugénie pour RTL.
18h12, sans transition, la bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
La bonne nouvelle, c'est un grand retour 6 mois après son grave accident sur le circuit F1 de Bahreïn. Romain Grosjean fera son comeback au cours d'une démonstration et des essais privés du Grand Prix de France sur une Mercedes. Ce sera à partir du 27 juin. Il a posté une photo sur les réseaux sociaux en tenue et tout sourire malgré des séquelles. Il avait été gravement brûlé aux mains. Chapeau bas, monsieur Grosjean.
Vous l'aimez bien.
Oui, je l'aime bien.
Écoutez, message est passé. Merci beaucoup à vous dans vos On se retrouvera tout à l'heure à 18h30. Tout de suite, c'est Yannick Jadot qui est l'invité d'actualité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est député européen, Europe Écologie Les Verts. Il se verrait bien en candidat à la présidentielle de l'an prochain. Yannick Jadot est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Yannick Jadot.
Bonsoir.
Comment ne pas commencer cette interview en évoquant, Yannick Jadot, le drame effroyable de Mérignac dont on parlait dans le journal. Une mère de famille a donc été tuée, brûlée vive en pleine rue par son ex-compagnon contre qui elle avait porté plainte, qui sortait de prison. Cette maman avait 31 ans, elle avait 3 enfants. Ça s'est passé en France en 2021. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du Moyen-Âge ?
C'est horrible, vous l'avez dit. C'est horrible. Il y a 3 enfants qui ont perdu leur maman. Et c'est le 39e féminicide depuis le début de cette année. Les choses ont évolué incontestablement. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé ces dernières années. Il y a une prise de conscience. Déjà maintenant, on parle d'un assassinat, d'un meurtre, d'un féminicide. On ne parle plus de crime passionnel. On ne parle plus de drame conjugal.
Mais le résultat est le même.
C'est une horreur absolue. Il faut aller beaucoup plus vite, il faut s'inspirer des pays, notamment comme l'Espagne, et aller beaucoup plus vite sur les ordonnances de protection des femmes qui viennent porter plainte, aller beaucoup plus vite sur la formation des policières.
Mais cet homme-là, il sortait de prison.
Il sortait de prison. Il faut aller beaucoup plus vite sur les bracelets de non-rapprochement. C'est incompréhensible que quelqu'un qui sorte de prison puisse avoir des armes à feu chez lui. Et il faut aussi aller plus vite sur les budgets pour notamment faire des centres d'hébergement. Mais on sait à quel point les centres d'hébergement sont aussi des solutions terribles pour ces femmes. Parce que ce sont des victimes et ce sont elles qui doivent s'éloigner de leur foyer. Et donc il faut aller en Espagne, ils ont des juridictions spéciales, des magistrats spéciaux qui s'occupent des violences faites aux femmes. Donc il faut accélérer, on connaît des moyens de réduire les féminicides, il n'est pas possible que la France soit aussi à la remorque.
Si demain vous étiez au pouvoir, est-ce que vous appliqueriez le quoi qu'il en coûte à la lutte contre les violences conjugales? Parce que ça aussi, ça a du sens, les moyens qu'on y met.
Je ne sais pas si c'est le quoi qu'il en coûte. On sait exactement ce qu'il faut mettre. Il faut mettre 32 millions là sur les centres d'hébergement pour avoir 2000 places en plus. On sait que l'Espagne met plusieurs centaines de millions d'euros par an et ils sont un exemple.
Mais là, il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu les violences, il y a le Grenelle.
Mais il faut, là, on n'est pas à la hauteur des drames absolument effroyable auquel nous assistons. On n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur sur l'ensemble du système éducatif, sur l'ensemble du système de la justice, de la police, pour accueillir, pour entendre. Il faut imaginer l'acte de bravoure d'une femme qui rentre dans un commissariat. Et si vous êtes déjà rentré dans un commissariat, c'est pas facile pour aller porter plainte, pour aller dire ce qui est subi de violence physique ou de violence psychologique. Et là, il manque d'un accompagnement complet, une fois que cet acte de bravoure est fait, pour protéger la femme, pour éloigner le mari ou le conjoint violent et potentiellement meurtrier.
On n'est pas à la hauteur. Cet après-midi, Yannick Jadot et Emmanuel Macron a commémoré le bicentenaire de la mort de Napoléon aux Invalides. Faut-il commémorer, faut-il célébrer Napoléon qui est une part de nous, a dit le chef de l'État?
Célébrer, non. Quand on parle des violences faites aux femmes, il faut se souvenir que Napoléon considérait que la femme était la propriété de l'homme. On sait qu'il a rétabli l'esclavage. Il ne faut pas célébrer, mais il faut en parler.
J'aurais aimé
que le président de la République vienne parler de Napoléon devant une classe de lycée. Vous voyez, qu'on arrête cette hystérie dans ce pays où on n'arrive pas à discuter de notre histoire. On n'arrive pas à en débattre. Il y a, dans l'histoire de Bonaparte, de Napoléon, des choses qu'on fait évoluer notre pays, qu'on fait évoluer l'Europe, pour le meilleur et parfois beaucoup pour le pire. C'est incroyable qu'on n'arrive pas à en débattre plus sereinement. C'est une part de notre histoire. Et je trouve que à chaque fois, on est mis dans des situations où il faut être contre ou pour Napoléon. Napoléon fait partie de notre histoire. La question n'est pas de le célébrer. La question, c'est qu'on puisse, dans nos cours d'histoire, dans le débat public, qu'on puisse distinguer la part d'intelligence, la part de bénéfice pour la France, de la part des crimes qui ont été posés par Napoléon en France et en Europe.
Alors, clin d'œil de l'histoire, c'est à son époque, Yannick Jadot, que remonte la première interdiction du haschich pendant l'occupation française de l'Égypte. Aujourd'hui, certains parlementaires demandent une légalisation régulée pour, disent-ils, reprendre le contrôle face aux trafiquants et pour mieux protéger les mineurs. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Oui, c'est une position historique des écologistes. Il ne faut pas seulement être dans la dépénalisation, au sens où la dépénalisation maintient les trafics et maintient des quartiers entiers sous emprise des trafiquants. Si on veut régler la question des trafics, si on veut régler la question de santé publique et notamment la question de l'addiction des jeunes, il faut un système organisé, contrôlé, régulé par l'État, qui nous permet justement...
C'est-à-dire qu'on achèterait son shit comme on achète ses cigarettes ou son alcool ?
Ça peut être en pharmacie, par exemple, mais ce qui est essentiel, et là encore, il faut qu'on prenne exemple sur les pays où ça fonctionne, notamment le Portugal, qui a réduit l'addiction des jeunes et la consommation des jeunes. Il faut pouvoir avoir une vraie politique de santé publique. La France est le pays le plus répressif, et c'est le pays où il y a la plus grosse consommation.
5 millions d'usages annuels et 900 000 fumeurs quotidiens.
Il est terrible que le président de la République et le ministre de l'Intérieur continuent à mettre la tête dans le sable sur les drames qui affectent notamment les enfants et les jeunes qui aujourd'hui sont addictifs au cannabis.
Les députés qui ont aussi adopté hier le projet de loi climat et résilience, alors on ne va pas refaire le match, vous en avez déjà beaucoup parlé. Vous êtes député européen, mais si vous aviez été député national, vous auriez voté contre, sur le mode tout est à jeter, pour, en disant c'est mieux que rien, ou vous seriez abstenu?
J'aurais voté contre. On a une responsabilité.
Donc tout est à jeter?
J'aurais voté contre parce que quand l'objectif qui est fixé aujourd'hui au niveau européen pour éviter le chaos climatique, on connaît la situation des agriculteurs, on sait les canicules, on sait les drames liés aux inondations, aux feux. Il nous faut aller vers 55-60% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le projet loi n'arrive pas au dixième de cet objectif. N'arrive pas au dixième de cet objectif. Alors après, vous pourriez me dire, Il y en a quand même. Il y a des évolutions
c'est
qui vont dans
Barbara
le bon sens.
Pompili, mais la c'est comme quand... Elle dit c'est à la fin qu'on verra. On verra qu'on a fait des choses, on n'a pas rien
mais
fait.
Bien sûr. Mais on ne peut pas avoir de compromis sur l'ambition. En revanche, et moi je le porte dans tous mes combats, on peut avoir des compromis sur le chemin. Comment on fait avec les agriculteurs? Comment on fait avec les entreprises? Comment on fait avec les citoyens? Mais on ne peut pas avoir de compromis sur notre ambition climatique.
Et je regrette
que le président de la République et sa loi soient dans un déni assumé de l'urgence climatique.
Une loi de déni, hein, vous dites, pour la loi sur le climat et la résilience.
Et vous savez, par exemple, le meilleur juge de paix, c'est une très bonne décision qu'a pris le président de la République sur le climat. C'est de créer le Haut Conseil pour le climat. On a mis nos meilleurs experts du climat. Et ce conseil dit, nous devons faire 3 à 4 fois plus. Vous vous rendez compte? 3 à 4 fois plus. Nous sommes en queue de peloton européen sur la rénovation thermique des logements qui donne du pouvoir d'achat, qui donne de l'emploi.
Pourtant, il y a des choses sur la rénovation,
qui donne du confort
dans la loi.
Et sur les énergies renouvelables.
Voilà,
d'ailleurs... Si je peux me permettre, c'est un sujet que je voudrais évoquer avec vous, notamment la question du photovoltaïque.
Oui, bah moi j'ai une question là-dessus, alors, ça tombe bien, parce que vous étiez samedi sur l'entreprise, le site de l'entreprise Ferropem de l'Aléchère, c'est en Savoie. C'est une entreprise qui va supprimer environ 350 emplois en France. C'est un groupe qui fabrique des composants qui servent notamment pour la fabrication de panneaux photovoltaïques. Ça veut dire quoi? Que même pour les industries du futur, même pour les énergies de demain, celles que vous voulez pousser, ça ne se passera plus chez nous, ça ne peut plus se passer en France. Économiquement, ça ne tient pas.
Ça doit se passer en Europe. Vous avez aujourd'hui une entreprise qui ferme 2 usines. C'est 357 salariés. C'est leur famille qui est en difficulté. Mais surtout, c'est une entreprise qui produit du silicium. Le silicium, vous l'avez dit, on en a besoin pour le photovoltaïque. On en a besoin pour les batteries électriques. On en a besoin pour les microprocesseurs dont nous manquons tant. On en a besoin pour les aciers haute performance.
Oui, sauf que le groupe aujourd'hui dit ça ne se passera pas chez nous, je supprime des postes.
Eh bien, c'est une faute. Et c'est là que l'État doit intervenir.
Mais comment,
vous savez la concurrence d'où elle vient? Elle vient notamment de Chine et la plus grosse entreprise de silicium est dans le Xinjiang, là où il y a un génocide sur les Ouïghours qui est perpétré. Est-ce qu'on va tuer nos entreprises pour importer du silicium de Chine? Eh bien moi, je demande à Bruno Le Maire qu'à travers son plan de relance, il garantisse à la fois, parce que cette entreprise a touché beaucoup d'argent public, soit elle réouvre ses sites, soit on lui impose un repreneur. On en a besoin.
Vous me faites penser à Xavier Bertrand et à tous les politiques qui sont allés chez Bridgestone à Béthune en disant « ça ne se passera pas comme ça » en faisant les gros yeux. Ça ne les a pas empêchés de fermer définitivement vendredi dernier.
Eh bien, à nous, responsables politiques, il y a aujourd'hui une union sacrée de tous les responsables politiques.
Ça marche pas. Bridgestone, ça marche pas. C'est
pourquoi
fermé.
Ça a pas marché.
Les gars ont perdu leur boulot vendredi.
Je me suis battu et je me continue à me battre au Parlement européen pour mettre du dumping sur les pneus chinois. On a laissé, à la différence des Américains, on a laissé les pneus chinois tuer l'industrie du pneu en Europe. Alors que ce sont des pneus qui protègent beaucoup moins les automobilistes. Et donc, il nous faut une politique industrielle. Si on n'assume pas dans ce pays d'avoir une politique industrielle, et on sait combien l'écologie aujourd'hui est la nouvelle perspective et la nouvelle promesse industrielle.
Sur ce dossier, vous demandez quoi à Bruno Le Maire concrètement ?
Je demande à Bruno Le Maire de s'emparer personnellement de ce dossier. Je demande à Bruno Le Maire de rencontrer les salariés. Ce sont des gens extraordinaires, amoureux de leur métier. Ils ont des compétences extraordinaires. Et surtout, on a besoin de ces industries. Vous vous rendez compte? En Rhône-Alpes, Auvergne, on a un des meilleurs centres de recherche sur les énergies solaires, notamment le photovoltaïque. On a des entreprises comme Photowatt qui sont en difficulté. Ils produisent des panneaux photovoltaïques. On a Ferropem avec le silicium. On peut avoir de grandes filières industrielles dans notre pays. On peut créer de l'emploi sur tous nos territoires. Mais il faut la volonté politique des énergies renouvelables. Il faut la volonté politique de la transition écologique. Et je demande à Bruno Le Maire de recevoir ses salariés ou de se rendre sur place et de sauver ses entreprises.
J'ai une dernière question pour vous, mais avant, je voudrais qu'on entende un écolo à sa manière. Il s'appelle Michel Sardou et voici ce qu'il disait hier matin sur RTL.
Bien sûr, je ne veux pas pourrir la planète, mais je ne suis pas du parti écologie, parce que dès que l'écologie fait de la politique, là, je ne suis plus d'accord. Ils nous prennent pour les pommes, c'est ce que je dis. Bon, tout le monde est écologiste, en fait, si on réfléchit bien. Mais dès que ça devient un parti politique, forcément, ça braque.
Tout le monde est écologiste, mais dès que ça devient un parti, ça braque. Si vous êtes sincère, vous n'êtes pas un tout petit peu d'accord avec Michel Sardou, là ? Le problème de l'écologie, c'est pas Europe Écologie des Verts.
Non.
Si.
Mais non. Mais heureusement. Si. Heureusement qu'il y a les écologistes pour, dans les mairies, mettre de la, du bœuf local dans les cantines. Vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train d'importer potentiellement 100 000 tonnes de bœuf du Mercosur. Mais ce sont les écologistes qui se battent. Sans les écologistes.
Doit-il être une étiquette
d'un
parti?
Thomas Soto, sans les écologistes, on aurait encore moins d'oiseaux dans nos campagnes. On aurait plus de pesticides dans nos champs. On aurait des forages de gaz de schiste partout. Nos enfants pourraient encore moins courir dans la cour d'école. Et sans les écologistes, on n'aurait pas ces entreprises des énergies renouvelables. Mmh. On n'aurait pas ces artisans de la rénovation thermique.
En tout cas,
thermique.
ils veulent pas que les personnes plus âgées votent pour eux, les écologistes. Si on voit la campagne
écoutez,
de Julien Bayou.
C'était une erreur.
Boomers,
ça a été une erreur. Il l'a reconnu. Le grand projet de l'écologie aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est à la fois une promesse d'innovation, c'est une promesse économique, c'est une promesse sociale. Mais c'est une grande promesse de compromis et de réconciliation dans notre pays. Pas de compromis sur le climat, sur la justice sociale et sur la démocratie, mais de compromis pour y parvenir, pour que personne ne soit laissé au bord de la route.
Si je vous demande de répondre par oui ou par non, puisqu'on est très en retard,
je sais pas.
Serez-vous candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts ?
Je me prépare à cette élection présidentielle avec beaucoup de conviction, avec beaucoup
la
de détermination.
De votre
et comme votre horloge tourne manière
c'est
extrêmement
pratique,
rapide, je peux vous dire que je suis convaincu que l'écologie peut être la grande promesse républicaine, la grande espérance pour la France.
Oui ou non ?
J'aime la France.
Ok. Merci Yannick Jadot d'être venu, on vous réinvitera et vous nous le direz une autre fois à suivre. Le regard de Valérie Trierweiler.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le rappel.
Elle a vécu un calvaire. Shaïnaz, 31 ans, a été brûlée vive hier après-midi par son mari à Mérignac en Gironde. Il a été interpellé. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Un rassemblement est en cours à Mérignac en hommage à cette mère de 3 enfants. Selon l'association Nous Tout, il s'agirait du 39e féminicide de l'année. On n'est pas à la hauteur du phénomène, selon Yannick Jadot, eurodéputé écologiste. Il était l'invité d'RTL Soir. Les derniers chiffres de Santé publique France en baisse ce soir, 5400 patients toujours en réanimation et 245 décès liés au Covid ces dernières 24 heures. Les casinos français rouvriront partiellement leurs portes le 19 mai, dans un premier temps les machines à sous et jeux électroniques. Avec une jauge de 35% des visiteurs, ils pourront utiliser leurs terrasses comme les restaurateurs. Et puis Emmanuel Macron appelle les Français à regarder notre histoire en face. Le chef de l'État a commémoré sans célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Figure marquante mais controversée.
La météo, Peggy, on n'en est pas encore aux terrasses ouvertes et d'un point de vue météo, c'est heureux parce que bof bof hein, demain.
Oui, mais c'est plus que bof bof, même c'est bien perturbé. Hein. On aura beaucoup de pluie sur un quart nord-ouest d'abord le matin et ce corps pluvieux va gagner les frontières de l'est l'après-midi et va se décaler vers le sud au fil des heures avec beaucoup de vent. Le temps deviendra instable sur le nord-ouest entre nuages, éclaircies, averses, orages. Et il n'y a qu'entre les Pyrénées, les Alpes du Sud et la Corse que le temps sera sec avec du soleil le matin, plus de nuages en journée. Tout ça sous des températures stationnaires ou en hausse, de 9 à 17 au nord jusqu'à 23 au sud.
Merci à vous, Peggy. N'en déplaise à Philippe Cavrivière, nous sommes mercredi. Et le mercredi, c'est l'œil de Valérie Trierweiler. Bonsoir et bienvenue, ma chère Valérie.
Bonsoir.
Vous voulez nous parler aujourd'hui du programme des réjouissances annoncées pour le 19 mai, à partir du 19 mai, si tout va bien.
Oui, oui Thomas, vous vous souvenez d'abord de cette déclaration d'Emmanuel Macron ?
Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction.
Voilà, vous vous souvenez ?
Absolument.
C'était en avril, mais en avril 2020.
Il y a un an, ça déjà.
Donc plus d'un an, voilà. Et puis c'est une phrase qui était très mal passée parce que ça faisait référence au programme du Conseil national de la Résistance. Et on considère que sa politique en est bien loin. Mais cette fois, le président s'est bien gardé de faire ce genre de comparaison. Alors même si le protocole de réouverture commence le 19 mai pour les terrasses et les lieux de culture, comprenez que les professionnels soient un peu circonspects. Parce qu'on est bien loin de ce sentiment.
Liberté, sur la grande route de la liberté, un homme passe et chante liberté.
Charles Trenet.
Toi dans le ciel et dans l'espace.
Je vous ai choisi une chanson d'après-guerre parce que beaucoup de personnes se disent qu'il va y avoir dès le 19 mai, hein, vous savez, ce petit air de fête dans les rues de Paris comme il y a eu à la Libération. Bon, et là, Thomas, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. Et puis même, disons-le, les moins de 70 ans, je vous parle de l'après-guerre.
Bon, c'était quand même une autre époque et ça ne sera pas le cas.
Non, évidemment, parce que d'abord, avec un couvre-feu à 21h, vous n'irez pas très loin, et moi non plus. Alors certes, le couvre-feu sera repoussé à 23h le 9 juin, mais d'ici là, la fête sera très modérée. Ensuite, avec une capacité d'accueil réduite à 30-35% pour les salles de spectacle, tout, et puis les casinos, comme je viens d'entendre, tous les professionnels le disent, ça n'est pas rentable. Les directeurs de théâtre estiment qu'avec une jauge inférieure à 65%, ce n'est même pas la peine d'ouvrir. Et ça, ça ne sera autorisé, là encore, que le 9 juin, si tout va bien. Et puis du côté des théâtres, on a surtout le moral en berne. Le mois de juin est une période où la saison s'achève. Le public se fait rare et préfère boire un verre à l'extérieur plutôt que s'enfermer. Et puis monter un spectacle, en faire la promotion, tout ça en 15 jours, ça relève de l'exploit.
Évidemment. Hein.
Alors les producteurs redoutent aussi le stop and go. Vous vous souvenez, là encore, à l'automne dernier, les salles venaient de rouvrir et il a fallu à nouveau fermer presque aussitôt.
Bon, mais alors il va se passer quoi le 19 mai ?
Ben, je vais vous décevoir, Thomas. Je vais faire la rabat-joie parce qu'il ne va pas se passer grand-chose dans un premier temps. On a même appris dans les échos que le producteur Jean-Marc Dumontet, va ouvrir ce jour-là ses théâtres pour refermer dès le lendemain. En attendant les jours meilleurs, ce que nous promet Emmanuel Macron. Mais les jours meilleurs ne commenceront pas non plus 9 juin, mais à la rentrée de septembre. Et là, c'est chronique d'une guerre annoncée.
Comment ça, chronique d'une guerre annoncée ?
Il y a 2 ans, 200 spectacles à faire rentrer en une année. C'est comme si, là, je vous le disais en 3 minutes, je vais faire 2 chroniques, Thomas. Alors même pour les tournées en province, c'est un véritable casse-tête, car tout 2022 est archi-booké. Alors après la pénurie, ça va être l'abondance, le trop, après le trop peu. Il va donc y avoir encore de la casse. Certains spectacles qui n'avaient eu que quelques dates vont à nouveau passer à la trappe.
Bon, donc en clair, pas de vent de liberté comme en 45, là, on en est loin.
Et puis aussi parce que ce qui faisait le sel de la vie parisienne à cette époque, c'était aussi les cabarets qui restent fermés pour le moment. Et puis vous savez, Thomas, qui avait un réel succès à ce moment-là ?
Non.
Bah écoutez, c'était ça.
Décidément, c'est la soirée Sardou.
C'est la soirée Sardou. Hein, et bon, bah ça, on a bien compris que ce soit à Nogent ou au but de Chaumont, ça reste interdit. Enfin, en bref, la bamboche, Thomas, c'est non.
Oh, je vous sens un petit peu déprimé. Allez, positivons un peu quand même. Il y a des choses qui vont s'arranger. Et puis demain, de toute façon, il y aura Philippe Cabrera pour nous
sourire. Il faut être patient. Et Philippe, on ira faire la bamboche.
Ah bah dis donc, vous n'avez qu'à le chauffer. Allez-y, profitez de l'antenne. Allez, merci Michel Sardou. Il s'appelle Jim Bauer. Il a un nom, il a surtout une voix très remarquée dans The Voice pour sa reprise de Tata Yo-Yo, mais aussi de Angie des Rolling Stones. Alors Jim Bauer, invité de RTL Soir, c'est tout de suite.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Il sera samedi soir en demi-finale de The Voice sur TF1. Il a déjà marqué les esprits en sublimant Annie Cordy grâce à son interprétation de Tata Yo-Yo. Jim Bauer est l'invité d'RTL Soir.
Tata Yo-Yo,
oh oh,
qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau ?
Exceptionnel.
Tata Yo-Yo, dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux.
Bonsoir et bienvenue à vous, Jim Bauer.
Bonsoir.
C'est venu comment ? Qui a eu cette idée de prendre Tata Yo-Yo comme ça ?
En fait, c'est un défi qu'on m'a lancé il y a 10 ans, où j'avais fait une version un petit peu triste d'une chanson d'AC/DC. Et en fait, il m'avait dit, toi, tu reprendrais Tata Yo-Yo, tu trouverais le moyen de le faire triste. Et donc, je suis revenu le lendemain en faisant juste le refrain triste. Puis c'est devenu une blague comme ça en soirée pendant un temps.
Donc, cette chanson qui nous bouleverse, c'est une vanne potache ?
À la base, oui. Et après, j'ai découvert le texte. Et là, j'ai fait une version complète avec tout l'arrangement plus latin, plus cubain.
Mais c'est vrai parce que, en fait, on est, et je vous le disais juste quand vous êtes rentré dans ce studio, moi j'ai vu Annie Cordy quand j'étais gamin en concert, j'ai chanté Tata Yo-Yo comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, mais on n'avait jamais saisi la dimension dramatique de ce texte.
Je pense que c'est le fait que j'avais probablement jamais écouté la chanson originale aussi, qui faisait que, du coup, j'ai pu lire le texte sans avoir la mélodie peut-être originale en tête. Et du coup, ça m'a permis de simplement lire le texte comme un texte et du coup de le mettre en musique assez librement en fait.
une samba.
Alors moi, quand j'entends ça, je la vois, Tata Yo-Yo. Je l'imagine en noir et blanc, avec cette air de clown triste, en fin de soirée, quand le monde disparu, on se retrouve face à soi. C'est important pour vous de donner à voir comme ça ou pas?
Ouais. C'est en fait, je vois tout d'une manière cinématographique quand je fais de la musique. Je pense que c'est peut-être parce que j'étais... Enfin, quand j'avais 8-10 ans, je voulais être dessinateur. Et je pense que c'est resté, en fait, ce rapport à l'image dans la musique. Il y a plein de gens qui pensent au concert quand ils composent des chansons. Moi, je pense toujours à la scène du film.
Au clip, à l'image.
Ouais, même plus que le clip, carrément à la bande originale du film. Ouais. Je vois toujours ça comme de la musique de film.
Alors, Jim Bauer, vous allez avoir 30 ans. Ce sera le 21 juin, jour de la fête de la musique. Vous êtes le fils de deux artistes, Nathalie Cardone et Axel Bauer. La chanson, ça vous a pris quand? Ça vous a pris comment? Ça a commencé comment?
Ça a commencé quand j'avais 13 ans, un peu par accident. En fait, je voulais pas du tout faire de la musique. Et puis, y avait la fille de mon prof de musique qui me plaisait un peu. Et en fait, elle avait un an de plus que moi. Donc, le seul moyen d'être dans sa classe et de pouvoir un peu me rapprocher, c'était d'aller dans la classe d'informatique musicale qu'avait créé mon prof de musique.
Donc, vous êtes inscrit. Et vous avez commencé à faire de la musique pour chauffer la fille de la prof.
Exactement.
Du prof.
Exactement.
Ça a marché?
Non.
Ah, merde.
Bon. Mais par contre, j'ai découvert du coup le beatmaking.
Le
beatmaking, donc
bien,
la musique par ordinateur.
D'accord.
Et donc j'ai commencé par ça, et je pense que c'est ça qui m'a permis de commencer la musique d'ailleurs, parce que si ça avait pas ressemblé à des jeux vidéo, je pense que j'aurais jamais commencé.
D'accord, donc vous êtes arrivé par le côté en fait, hein, sur la musique.
Bah, le côté aujourd'hui, c'est un peu le centre du truc au final. Mais...
C'est vrai, c'est une réflexion de vieux que je vous fais, c'est un boomer. Vous avez tout de suite voulu vivre de la musique ou c'était un hobby pour vous? Vous avez tout de suite dit, ça c'est ma vie ou...
Non. Au début, je le faisais vraiment comme un jeu vidéo. Donc je faisais des prods de rap, je faisais un peu n'importe quoi, très mal, je faisais des trucs d'électro. Et puis après, y a eu une autre fille qui me plaisait, mais qui écoutait pas du tout ni de rap ni d'électro. Et donc j'avais 15 ans et elle écoutait du rock. Et donc j'ai voulu apprendre la guitare pour
lui faire un peu jouer interdit.
Quoi.
Là, c'est ça.
Et
ça a marché?
Non.
Oh non.
Ça n'a pas marché, mais par contre, j'ai intégré un groupe de rock 3 mois après, et la guitare, c'est venu assez vite, au final.
Ouais, je pense qu'elle regrette, les deux, elle cherche votre numéro, comme c'est pas possible. Vous avez longtemps chanté dans la rue aussi, c'était pour le plaisir, ça? C'était pour... vous chantiez où? Vous chantiez quoi?
En fait, quand j'habitais à Carpentras, donc il y avait une église qui s'appelait... Enfin, une cathédrale qui s'appelait la cathédrale Saint-Siffrin. Et en fait, un jour, je me suis posé dans les marches, par hasard, et en fait j'ai joué une chanson comme ça, mais pour m'entraîner, et en fait quelqu'un m'a mis une pièce, j'avais rien demandé, et en fait je me suis dit ok, je continue, et puis il y a quelqu'un qui m'a mis une deuxième pièce, et puis à la fin j'ai fait genre 30 euros, et je me suis dit oh c'est cool, je vais m'acheter des mangas, et en fait j'ai fait ça tous les mercredis et tous les samedis.
Et
après-midi.
Vous chantiez quoi?
À l'époque c'était beaucoup de Nirvana, ouais, de Hotel California, de trucs comme
Hotel
ça.
Hotel California, ça peut marcher avec les filles, hein. C'est... Non plus? Bon.
Moi, j'ai eu tendance à être la BO de mes potes pour que eux ils pécho en soirée.
C'est
Mais
ça.
Moi, j'ai jamais pécho. Je
fais valoir. J'ai bien connu
à
ça.
À la fin,
aussi.
Voilà.
Ouais, je vois très bien. Vous avez aussi fait partie d'un groupe qui s'appelait Bristol. Hein. Vous avez composé avec Slimane pour Florent Pagny, Panic et Jury dans The Voice. C'est lui qui vous a dit faut t'inscrire au concours ou pas du tout?
En fait, moi, Panic, je le connaissais pas. En fait, j'ai travaillé avec Slimane sur des chansons pour Slimane, mais aussi pour des chansons pour plein d'autres artistes.
D'accord.
Et donc, Slimane a proposé cette chanson à Florent Pagny, et du coup, j'ai composé pour lui, mais moi, je ne l'avais pas rencontré. Enfin, je l'avais croisé. Ouais.
Mais c'est pas lui qui vous dit, viens, inscris-toi et tente ta chance?
Pas du tout.
Non.
Non, j'ai... en fait, on m'a repéré dans le métro il y a 10 ans pour The Voice. J'étais en train de jouer dans le métro, et quand on fait les castings pour avoir la carte du métro... du coup, les casteurs du métro, quand ils voient des gens qui savent chanter, ils les proposent aussi au casting de The Voice.
Et vous avez dit non à l'époque?
Ouais.
Pourquoi?
J'ai dit non tous les ans pendant 10 ans.
Ah, ça alors?
Ouais.
Ouais, c'est fou ça.
Mais en même temps, j'ai toujours gardé un très bon rapport avec eux. J'étais quand même allé au rendez-vous, j'avais fait les débuts de casting et tout ça. Mais en fait, j'étais pas prêt à l'époque. Je voulais faire un groupe de rock, je voulais même pas être chanteur lead ou quoi que ce soit. Après, au fur et à mesure, c'était des projets. Qui était toujours un petit peu plus indé. Après, j'avais des projets qui sortaient, donc j'avais pas envie de faire The Voice, parce que pendant qu'on fait l'émission, on peut pas trop sortir de choses. Et puis ça a évolué, l'émission aussi, elle a évolué.
Ouais.
Et là, à un moment donné, on s'est croisés.
Vous êtes croisés. Alors,
c'est-à-dire que je pouvais le faire et l'émission me plaisait plus aussi.
Votre première chanson, c'était cette reprise de James Brown. Is it the Maine's world? Is it the Maine's world? Vous avez aussi repris Aline de Christophe.
Je vais dessiner.
Ça, c'était samedi dernier.
sur le sable, son doux visage.
Le problème avec vous, c'est qu'on a envie d'écouter jusqu'au bout.
Qui me souriait.
Vous êtes un garçon triste, un garçon grave, un garçon sombre. Parce que quand on vous écoute chanter, c'est l'impression qu'on a. Et puis là, quand je vous vois, je n'y vais pas du tout.
Non, je ne suis pas très sérieux.
Ouais.
Je suis un grand gamin, surtout. J'ai plein de trucs de manga chez moi et de trucs de jeux vidéo.
Il vous reste deux marches à gravir, là. Samedi, les demi-finales. Cette fois, ce sera en direct. C'est un petit stress supplémentaire ou pas?
Ouais, c'est une sensation très bizarre, là. Parce qu'en fait, on a un peu la sensation d'avoir déjà tellement accompli et gagné que là, c'est vraiment un honneur d'être là. Et
sachant que toutes les précédentes émissions ont été enregistrées il y a quelques mois déjà.
Ouais, mais c'était déjà une aventure tellement énorme. Là, en fait, on est tous réunis et on est juste hyper contents d'être là. Si on a la chance de encore faire une émission derrière, c'est trop cool, mais on a déjà tout gagné là. On est trop heureux déjà.
Vous allez chanter quoi samedi? Je crois que vous avez le droit à une chanson que choisissez-vous.
Je ne vais pas le dire.
C'est vrai, vous n'avez pas le droit de le dire?
Non, mais c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que moi j'aime bien ne pas le dire. D'accord. Parce qu'à chaque fois, je fais
une surprise. Ça sera en français ou en anglais juste?
Ça sera en anglais.
Ça sera en anglais. Donc ça sera pas ça. Ça, c'est votre père, Axel Bauer, évidemment. Vous auriez pu prendre un pseudo pour être tranquille, non?
Non, parce que les artistes qui, je trouve, ont réussi à faire le mieux exister, finalement, leur nom en tant qu'enfant de célébrité, c'était des artistes qui, finalement, avaient gardé leur nom de famille. C'était Jeff Buckley, c'était Michael Douglas... C'est Charlotte Gainsbourg, c'est les artistes.
Ah, vous mettez dans une lignée qui est quand même pas mal. Hein.
Non, mais c'est pas la question d'être lignée, mais bon, forcément, je cherche dans les fils, dans les enfants de célébrités, ceux dont je m'inspire pour la gestion de ça, de cette problématique-là, et je trouve que eux ont réussi à mieux. Finalement, enfin, quand je pense à eux, je pense pas à ça.
Ouais. Alors nous, quand on vous voit et quand on vous entend chanter, pardon, mais on pense pas à votre père. Et d'ailleurs, il a dit très joliment, il a déjà gagné, car les gens reconnaissent son talent. On a vu naître un artiste.
C'est gentil.
Merci. Vous le saviez, c'est qui avait dit ça, quand même.
Ouais. Oui, mais ça reste gentil.
Merci, Jim Bauer, d'être passé par RTL Soir. Bonne chance pour samedi.
Bah, merci à vous.
Nous, juste avant la culture de l'actu, on va quand même replonger dans le monde finalement méconnu de Tata Yo-Yo. Et merci encore.
Bah, merci beaucoup.
Bonne chance.
Merci.
Depuis le temps que je me tremballe.
À suivre le triple C de Julia Molcou, c'est comme Claude Chirac, c'est comme Corrèze, c'est comme culture de l'actu.
Mon charme fou.
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
La culture de l'actu à 18h51 avec vous, Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Il est formidable, hein, Jim Bauer.
Formidable. J'ai adoré, on vote pour lui samedi soir.
Allez, on y va. Claude Chirac a annoncé sa candidature aux élections départementales en Corrèze, un fief électoral s'il en est de la famille Chirac. Alors ce soir, Julia, non, vous ne devenez pas Olivier Bost, éditorialiste politique, mais vous nous faites visiter la Corrèze dans la culture. C'est un peu cliché pour commencer.
Il faut toujours commencer par quelque chose, et en l'occurrence là, ce sont les bruyères corréziennes. La Corrèze, et ça je l'ai appris cet après-midi, est sans doute le département français qui compte le plus d'écrivains au mètre carré, sans qu'on puisse l'expliquer. Il y a bien sûr la bande de l'école de Brive, dans laquelle on trouve Claude Michelet ou Michel Peyramor. Et puis on peut aussi évoquer l'écrivain Denis Tillinac, mort un an jour pour jour après son ami de jeunesse, le plus célèbre des Corréziens, Jacques Chirac.
C'est important, vous êtes tâche corrézienne?
C'est fondamental. C'est essentiel pour moi, c'est ce qui est à la base de mon équilibre psychologique et politique.
Et puis, dans ce paysage littéraire fourni et varié, ben, j'ai découvert l'histoire de Marcel Delpastre. Marcel Delpastre, c'était une poétesse et une paysanne, née en 25, morte en 98, qui tout au long de sa vie a noirci des milliers de pages en occitan et en français, restant vivre et travailler dans la ferme familiale sans jamais se marier, et se demandant encore quelques jours avant de mourir, mais qu'est-ce qui devait compter le plus, vivre ou écrire ?
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon.
Alors la halle des producteurs de Brive-la-Gaillarde porte désormais le nom de Georges Brassens.
C'est bien pourtant, le moins, c'est bien le moins.
Oui, mais pourtant le chanteur n'a aucun lien avec la ville, à part cette chanson dans laquelle il rhabille clairement pour l'hiver les gendarmes gaillards. Quant à cette histoire de bagarre là, entre les femmes du coin, l'a-t-il purement inventée ou a-t-il été inspiré par une rumeur qu'on lui aurait rapportée? La légende reste entière. Mais bon, puisqu'on parle de femmes, allez, allons-y.
Voulez-vous danser, grand-mère?
C'est un bon.
Eh bien, cette chanson, on ne la doit pas du tout à Chantal Goya, messieurs, dames, pas du tout. On la doit à la corrézienne Lina Margie. Voilà.
C'est elle qu'on entend là.
C'est elle qu'on entend.
Ah ouais.
D'autres grandes femmes sont liées à la Corrèze sans pour autant y être nées. C'est le cas de l'écrivaine Colette, à qui l'on doit entre autres la fameuse série sur les Claudines. Claudine va à l'école, Claudine va à Paris, Claudine s'en va. Bon. Ou encore le très beau roman Le blé en herbe. Eh bien Colette, corrézienne d'adoption, ne manquait pas de vanter les joies de la vie dans la petite commune de Varette. Et c'est encore Simone de Beauvoir qui évoque dans Mémoire d'une jeune fille rangée le foisonnement des couleurs et des odeurs qu'elle retrouvait chaque été dans la maison de son grand-père à Userche.
Maintenant, ça c'est PNL, parce que la Corrèze c'est aussi la terre où ont grandi les membres du groupe de rap PNL.
Mais oui, pardon, les deux frères, Tariq et Nabil, qui forment le duo PNL, sont en effet, ont passé une grande partie de leur adolescence à Brive. Et puis, est-ce que vous connaissez l'hymne officiel, et je pèse mes mots, de la Corrèze depuis 2018?
Pas du tout.
Parce qu'il y en a un. Eh bien, ça s'appelle « À nos souvenirs » et on doit ce titre au groupe préféré de Victoire de Rinxin.
Trois cafés gourmands.
Trois cafés gourmands.
Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle.
Oublier ce matin.
Victoire de Rinxin qui travaille dans l'équipe d'RTL Soir, hein, voilà.
De l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Bon alors, j'ai tout cherché. Hein. Il n'y a pas de Jean-Jacques Goldman sur la Corrèze. Je suis sûre qu'il a écrit sur bien d'autres endroits, mais il n'y en a pas. Alors pour clore ce sujet sur la Corrèze, bah moi je vous propose de terminer avec Michel Piccoli. Parce que l'immense comédien, disparu il y a bientôt un an, était corrézien de cœur. Et voilà ce qu'il confiait à nos confrères de France 3 sur son attachement à la Corrèze. C'était en 2014.
J'ai un attachement parce que j'ai eu la chance de faire 3 jours de bicyclette pour m'échapper des Allemands qui nous occupaient. Et j'ai découvert une sorte de famille qui m'a accepté dans une propriété, dans la campagne. Et ça a été pendant 1 an et demi une naissance, un changement de vie, un apprentissage des événements exceptionnels. Je m'en souviendrai tout le temps. La Corrèze fait partie de ma vie. Je me demande même si je ne suis pas corrézien.
C'est touchant, non?
Très joli, ouais.
Et je remercie Grégory Cardin, notre réalisateur, pour le montage. Vous aurez reconnu évidemment la bande originale du film
Vincent
Le Mépris
François-Paul
de Jean-Luc Godard.
Et les autres.
Et puis Vincent François-Paul et les autres, a signé Philippe Serbe, bien sûr.
C'était un joli voyage en Corrèze. Merci beaucoup à vous.
Merci.